15h41, c'est la Bourse Cash. Alexandre Aizé nous rejoint, stratégiste du groupe Richelieu. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Alexandre, vous venez aujourd'hui rendre justice. Votre verdict est-il clair ?
Il est clair.
Pour vous, et là je découvre votre verdict en même temps que nos auditeurs et téléspectateurs, pour vous, la déflation pourrait finir par revenir. Ce verdict, vous l'assumez ?
Je l'assume.
La déflation. Alors, on a un nouveau chiffre aujourd'hui, hein, des prix à la production qui confirme le ralentissement de l'inflation aux États-Unis. Hier, les prix à la consommation aussi l'avaient confirmé. Les chiffres d'inflation désormais largement inférieurs aux attentes. Mais vous vous dites, ce qui nous guette peut-être désormais, c'est un retour de la déflation.
Oui, à l'horizon 2025-2026, pour une raison essentielle, c'est que les banques centrales, de toute manière, ont très peur de l'inflation. Et on a vu hier dans le discours de Jérôme Powell, je crois que 20 ou 25 fois, il a utilisé le mot confiance. Il n'a pas encore totalement confiance dans la dynamique des prix à la baisse. Mais en fait, lutter contre l'inflation, c'est amener des prix à une stabilité autour de 2%. Or, ce que l'on voit, c'est que l'inflation pourrait baisser de manière beaucoup plus rapide que prévu. On voit le taux de chômage aux États-Unis qui commence à remonter. Et finalement, on voit le modèle chinois qui, finalement, le modèle chinois est un échec tourné vers sa consommation. Donc, il recommence à se tourner vers les exportations et l'investissement industriel. Donc, il exporte maintenant une déflation comme nous avions connu il y a une dizaine d'années. Et en plus, ce que l'on voit, c'est que les États-Unis sont en train de ralentir. Alors, les banques centrales disent, finalement, on ne veut pas être dans le même environnement dans les années 70 ou une inflation qui repart. Évidemment, c'est un risque, ces vagues d'inflation, mais d'une certaine manière, on sait qu'une baisse de taux d'intérêt, c'est 12-18 mois. Et on voit quand même, sous la vague d'un environnement macroéconomique qui est plutôt serein, on commence à avoir certains effritements. La Banque de New York commence à s'interroger sur les faillites, sur les cartes de crédit notamment. On voit l'immobilier commercial qui est encore en dégradation. Et il se peut que les banques centrales réagissent trop tard en baissant leurs taux et que finalement, on voit, avec des niveaux de dette qui sont énormes actuellement, eh bien, un retour à ce que l'on avait dans les années 2008-2010.
Et vous craignez une déconnexion, en quelque sorte, des banques centrales. Hier soir, la Réserve fédérale américaine, donc avec ses dot plots, nous emmène vers un scénario finalement d'une seule baisse de taux cette année, alors qu'effectivement, l'inflation, l'un des tout derniers indicateurs, ralentit de plus en plus. Vous sentez qu'effectivement, là, la Fed risque... Alors, elle a toujours dit, il vaut mieux baisser les taux trop tard que trop tôt. Mais elle risque effectivement de commencer à baisser ses taux trop tard, à vos yeux, la Fed ?
Elle peut baisser ses taux trop tard. En tout cas, elle peut encore hésiter et essayer... L'enjeu, et Jérôme Powell l'a rappelé, c'est d'éviter que les marchés anticipent encore plus que ce que ne pourrait faire la BCE, donc finalement fassent baisser les taux trop rapidement et remettent en place une vague d'inflation. Donc la Fed a très peur de ce manque de crédibilité. C'est vrai qu'elle a failli perdre sa crédibilité en 2022 en disant que finalement il n'y avait pas d'inflation qui était temporaire. Et là, effectivement, à force de vouloir être certain qu'il n'y ait plus d'inflation, j'en parlais tout à l'heure, elle pourrait amener finalement vers une dynamique de prix positif négatif en 2025. Et c'est important, hein, parce que finalement...
Mais quoi, juste un mois ou deux négatifs comme ça, parce qu'on serait dans les, comme vous dites, dans on va dire les irrégularités de l'inflation, avec des hauts et bas, des va-et-vient, voilà, et où vous voyez une structure peut-être plus durable s'installer vers une déflation. C'est ça que vous êtes en train de mettre en avant aujourd'hui, ou juste un mois ou deux comme ça, l'accidentel?
Non, ça peut être un peu plus délicat. Pourquoi? Parce qu'on a encore une situation encore différente de ce que l'on était dans les années 2000-2010, c'est les montants de dette, notamment des États, et qui sont quand même d'une certaine manière déflationnistes. L'État américain, l'État français, l'Europe en général, effectivement, les dettes sont largement en dessous de 100% du PIB, et donc ça amène finalement un phénomène déflationniste, parce qu'on pourrait avoir en plus, effectivement, potentiellement une crise sur la dette. Et dans ces cas-là, les banques centrales devraient réagir, mais si on le voit actuellement, l'inflation est encore importante, elles ont les pieds et mains liés pour l'instant, et pourraient voir le train passer sans pouvoir agir.
Mais si déflation l'y a, ce serait forcément lié à une récession, ou on pourrait avoir la croissance et la déflation ?
Ah bah, ça serait forcément lié à une récession, surtout aux États-Unis.
Vous êtes très noir, Alexandre.
Alors
c'est
non,
très, très noir.
C'est pas être très noir.
Vous allez contre, contre l'économie, c'est tout.
Alors très très noir. Je rappelle que l'année dernière, à peu près 80% du marché pensait qu'il allait avoir une récession importante aux États-Unis. Finalement, on a eu une croissance extrêmement vive. Finalement, il y a un consensus très fort pour dire que la croissance économique américaine est bonne, que l'année prochaine elle va être encore bonne. Finalement, ça n'a jamais été prédictif. C'est un risque qu'il faut prendre en compte, et surtout par rapport à ce scénario-là, c'est vraiment l'attitude de la Fed qui va déterminer si elle doit amener l'Amérique en récession pour faire baisser l'inflation.
Comment et donc, mais donc déflation possible, c'est un scénario majoritaire à vos yeux ou juste une petite mise en garde au cas où?
Non, c'est évidemment une mise en garde. D'accord. Et c'est complètement en dehors. Alors on commence à avoir quelques analystes de grandes banques qui en parlent, mais c'est encore sous le son est encore assez faible. Hein, mais c'est un risque qui pourrait revenir, pas cette année, mais à partir de 2025, vous allez voir, on en parlera.
Le son de la tour Euronext, vous le connaissez? Le voici. Étienne Brack nous appelle depuis la tour Euronext, 15h47. Étienne, effectivement, pour le suivi de cette séance, les indices américains, on le disait, sont mitigés. En revanche, en Europe et à Paris, la tendance est très très claire. On est dans le rouge et à nouveau un rouge très vif cet après-midi.
Oui, très clairement. Si Wall Street limite la casse grâce notamment à Apple et Nvidia qui sont sur des plus hauts historiques, la bourse de Paris, elle continue de s'enfoncer. Elle est même sur les plus bas niveaux de la séance. 7743 points, c'est une baisse de 1,5%. Alors hier, le CAC 40 a rebondi d'1%, mais ce rebond aujourd'hui, il ne tient pas. Surtout que vous avez des niveaux techniques qui ont été franchis à la baisse depuis plusieurs jours. Vos intervenants disent attention, il ne faut pas baisser sous les 7770 points sur le futur. Bon, là, le futur, il est à 7734, donc forcément, eh bien, il y a des portes ouvertes qui s'ouvrent. Pour l'anecdote, c'est très amusant de voir qu'il n'y a qu'une seule valeur dans le vert aujourd'hui dans le CAC 40, c'est Hermès. Comme quoi, eh bien, aujourd'hui, c'est devenu la valeur défensive par excellence depuis le début de l'année, puisque contrairement au secteur du luxe, eh bien, elle tient très bien au-delà des 2170 $ à l'instant. Euros, pardon.
Oui, effectivement. Et, peut-être un jour Hermès à Wall Street, après tout, Alexandre. Mais ils n'ont pas besoin d'aller à Wall Street pour, effectivement, pour briller. Cette question aussi sur l'automobile, parce qu'il y a un autre secteur, effectivement, qui aujourd'hui, lui, se distingue à la baisse, c'est le secteur automobile. On a eu hier cette annonce d'une hausse des taxes douanières en Europe sur les véhicules fabriqués en Chine. Et c'est aussi l'objet, Alexandre, de notre question aux auditeurs et téléspectateurs sur notre fil XBFM Bourse. Avec ces surtaxes douanières européennes sur les véhicules chinois, pour vous, qui sera la principale victime à la fin? Est-ce que ce seront les constructeurs français, les constructeurs allemands qui produisent beaucoup en Chine? Est-ce que ce sera Tesla qui est aussi produit en Chine? Voilà, victime peut-être Tesla effectivement de ces surtaxes douanières européennes vis-à-vis des constructeurs produits là-bas en Chine. Ou est-ce que, à la fin des fins, la victime de tout cela, ce sera le secteur des spiritueux, voire du luxe, avec de possibles représailles chinoises effectivement. Pendant que les Européens augmentent leurs taxes sur les véhicules chinois, eh bien les Chinois, eux, pourraient sanctionner, punir le segment des spiritueux, notamment des spiritueux français. C'est dans l'air depuis déjà plusieurs mois. Alexandre.
Alors, c'est dans l'air depuis plusieurs mois. C'est vrai que la guerre commerciale, on voit bien qu'elle vient, elle vient poindre le bout de son nez. Elle est venue des États-Unis très forte et de la campagne présidentielle américaine. On sait, on connaît les velléités de Donald Trump au niveau des tarifs douaniers. Ça ne fait que commencer. C'est vrai que, d'une certaine manière, Xi Jinping a essayé de rassurer lors de sa venue en France en disant que, en tout cas, la guerre commerciale ne concernera pas les spiritueux. À mon avis, effectivement, ça va être une victime collatérale assez importante et il faut s'attendre encore à des mesures assez répressives. Sur la question de savoir si...
Rémi Cointreau perd 5,5% par exemple aujourd'hui.
Tout à fait, vous avez Campari aussi, enfin vous avez tout ce secteur qui souffre de manière très significative. En ce qui concerne l'automobile, on est à peu près dans la même expectative, c'est-à-dire que évidemment sur le papier, ce sont les véhicules allemands qui exportent beaucoup en Chine qui vont souffrir le plus, mais en fait tout le secteur sera victime, en tout cas le secteur européen beaucoup plus que le secteur américain. Je voudrais juste aussi corriger, enfin en tout cas modifier quelque chose sur ce risque sur les taxes douanières. On voit que la Chine a quand même pris beaucoup d'avance pour lutter contre ces hausses de taxes, puisqu'elle commence à exporter dans d'autres pays qui réexportent. Oui. On le voit aux États-Unis avec le Mexique, notamment sur l'automobile. Donc, paradoxalement, la Chine est déjà prête. Est-ce que la question, c'est de savoir si l'Europe est prête à cette guerre commerciale? Ça, c'est encore une autre histoire.
Bon, ça c'est évidemment l'une des grandes thématiques, notamment depuis hier, donc cette annonce de surtaxe douanière européenne vis-à-vis des véhicules fabriqués en Chine. Autre immense thématique de marché, la France, décidément scrutée par les investisseurs internationaux. On a un écart de taux aujourd'hui entre les 10 ans français et allemands qui reste supérieur à 60 points. On est à 64 points à l'instant d'écart de taux, toujours entre la France et l'Allemagne. Le fait que ça ne se soit pas vraiment détendu depuis le début de la semaine, pas encore, 4 jours après l'annonce de la dissolution, c'est le signe qu'effectivement on est sur une tension amenée à durer jusqu'au scrutin, qu'on est au-delà effectivement de l'abcès de fièvre qu'on aurait pu connaître juste pendant quelques heures après l'annonce de la dissolution. Ça risque de durer, Alexandre ?
Ça risque de durer. On a eu un accès de fièvre mais assez finalement faible lundi, hein, 10 BP sur la dette française, c'est pas si important que ça. Il y a vraiment une défiance qui va se passer. On a quand même dans l'histoire, et il faut bien comprendre qu'en France, ça serait être la première fois où la France peut être attaquée par les marchés sur un sujet politique. La France a plutôt été une stabilité assez forte. On a eu à un moment l'Espagne, on a eu l'Italie, on a eu évidemment Liz Truss en 2022 en Grande-Bretagne. À chaque fois, effectivement, les marchés testent. Et j'en parlais au début de mon intervention, mais quand vous avez une dette de 110% de son PIB, en fait, vous êtes complètement dépendant du marché dans votre politique notamment budgétaire.
Oui. Donc on voit que d'autant que les créanciers sont très internationaux, les créanciers de la France.
Les créanciers sont très internationaux et quand vous avez 2,6% de votre charge d'intérêt par rapport au PIB c'est très important et que vous voulez ramener votre déficit budgétaire à 3% et que vous avez déjà 2,6% à payer en charge d'intérêt, ben on voit la fragilité des pays. Si les taux montent, vous avez un effet auto-réalisateur. Et ça, on l'a bien connu dans les années 2011 avec la crise souveraine européenne. Il y a ce spectre, notamment des investisseurs internationaux, mais aussi des locaux, qui repointent en tout cas de manière assez forte.
Et alors, justement, certains secteurs sont particulièrement touchés, le secteur bancaire, Vinci, hein, les concessionnaires auto, les médias aussi, avec une possible, on verra hein, si le RN obtient la majorité absolue, et c'est absolument pas fait. Mais on voit ces secteurs qui en bourse sont attaqués depuis le début de la semaine et le reste encore aujourd'hui, ils sont encore en baisse aujourd'hui, ces différents secteurs. Est-ce qu'il y en a un dont vous dites celui-là, tiens, c'est peut-être un point d'entrée, une occasion d'achat ou on laisse passer le train là ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, en France effectivement l'ensemble des valeurs baissent, mais on peut réinvestir sur des secteurs où au niveau européen, c'est-à-dire qui baisse aussi, la bourse dans son ensemble sur la zone euro baisse, et là vous pouvez avoir quelques valeurs qui peuvent en tirer parti. C'est vrai que les valeurs qui sont vraiment sur lesquelles qu'il faut éviter actuellement, à mon avis, sur les facteurs qui ont des chiffres d'affaires qui sont quand même très concentrés sur la France. Puisque là, au moins pour un mois, on est dans une complète incertitude.
Les small caps, par exemple, qui avaient brillé pendant un ou deux mois face aux grandes valeurs, là, je regardais, les small caps, elles ont effacé une partie de leur avance. Là, en quelques
Alors,
jours.
Le CAC small qui avait largement surperformé les marchés, le CAC, effectivement, baisse très, de manière très significative, ce qui n'est pas le cas pour les small caps européennes, en tout cas, qui sont un peu plus immunisés et qui font plus ou moins le marché. Donc c'est vraiment concentré sur la France et c'est vrai, on comprend, je veux dire, le système politique français est quand même compliqué pour des investisseurs internationaux, c'est encore pire, donc il y a ce doute encore présent.
Bon, et au-delà des small caps qui depuis quelques jours trinquent, les small caps françaises, alors c'est dommage, c'était le grand réveil. Bon là, on a un petit coup d'arrêt quand même. Au-delà de ces small caps, il y a les blue chips comme on les appelle, les grandes valeurs aussi impactées par la situation politique et qui le restent aujourd'hui. Hein. Les banques sont encore en repli, Crédit Agricole moins 3%, Société Générale toujours sous pression. On a toujours TF1 et M6 en repli de 3,5% chacune, et on a à nouveau Vinci aussi aujourd'hui, avec une possible, on verra, il faut une majorité absolue a priori, mais enfin on verra à quoi ressemblera l'Assemblée, il nous reste quelques semaines, un monde entier va passer d'ici à cette législative, mais aujourd'hui Vinci perd à nouveau 2,4%. Et 4 jours après l'annonce de la dissolution, un autre regard distancié sur les réactions de marché avec Gilles Mouet qui sera avec nous dans quelques minutes à partir de 16h10, le chef économiste du groupe AXA. Merci beaucoup Alexandre de nous avoir accompagné.
Merci.
Alexandre Aizé pour Richelieu.